le feuilleton des scènes d'Avignon. Serge Barbuccia, Sébastien Benedetto, Gérard Gélas, Alain Timard, Gérard Vantagioli racontent leur histoire et celle de leur théâtre. Une conversation avec Michel Flandrin.
Alain, Gérard, Serge, Sébastien et Gérard, il y a un thème que j'aimerais aborder, c'est celui de la troupe. Puisqu'à l'origine, le spectateur que j'étais, pour moi, il y avait la troupe du Chêne Noir, la troupe des Carmes. Mais après, lorsque je pensais au théâtre du Balcon, au théâtre des Halles ou au théâtre du Chien qui fume, j'imagine plutôt une personne. Gérard, par exemple, Gérard Gélas, vous avez eu l'esprit de bande?
Oui, je l'ai toujours, même si je le pratique moins.
Mais il y a eu une troupe établie à un moment.
Mais c'était plus qu'une troupe, puisque c'était le Chêne Noir. Comme on l'a tous dit, le local, c'est une chose, mais nous, quelque part, le local, on s'en foutait. On aurait pu être n'importe où. Quand on était à Ségurée, on concoctait des spectacles. Radio Mon Amour, par exemple, a été conçu là. C'était dans une ferme et on avait mis des ballots de paille avec des planches par-dessus pour faire une petite scène. Bon, c'était un peu aléatoire, hein, et dangereux. Oui, d'abord la troupe. Et quand la troupe, comme beaucoup d'équipes dans les années 80, a explosé, je ne m'en suis jamais remis. Après, j'ai fait un métier. Avec plus ou moins de bonheur, mais c'est un métier. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Souvent, je dis, ça en surprend plus d'un, que j'aime pas particulièrement le monde du théâtre. Parce que moi, j'ai connu le moment où on est dans les bus, dans les camions, dans nos Volkswagen, où on va en Pologne, dans toute l'Europe entière jouer, et on conçoit les spectacles dans les camions, dans les halls d'hôtels, entre deux répés du spectacle qu'on présente le soir, etc. C'est-à-dire un bain où on est tout le temps dans l'artistique. Moi, je venais des groupes de musique. Voilà, donc nous, on travaillait comme ça. D'ailleurs, on était tous musiciens. Hein. Si t'étais pas musicien, on rentrait pas au Chêne Noir. Hein.
Orphée appelle Eurydice. Mon ami, mon amour, je cherche Eurydice. Personne ne peut me renseigner.
Même les régisseurs qui ont pris leur retraite aujourd'hui, les Jean-Louis Cano était saxophoniste et flûtiste, Jean-Pierre Chalon, magnifique batteur de jazz. La troupe, c'était la base de tout. Avec le recul, je vois bien qu'à un moment donné, le piège de la société dans laquelle nous sommes s'est refermé.
Et Eurydice ne répond plus. Eurydice. Ah, petit Orphée, personne hélas ne t'écoute. Entendez ? Je cherche Eurydice.
La grosse différence aussi, c'est que l'intermittence a développé des carrières individuelles aussi.
Serge Barbuccia.
Avant l'intermittence, il y avait l'obligation pour défendre le théâtre d'être beaucoup plus soudés les uns avec les autres. Et donc la notion de troupe, elle a disparu avec l'évolution de l'intermittence.
Oui, c'est la course à l'argent pour pouvoir continuer à être ouvert. C'est un certain nombre d'acteurs, y compris parmi les plus fameux avec qui j'ai pu travailler. Si j'emploie le mot de mercenaire, il est trop fort. Disons qu'ils n'ont pas l'esprit.
Qu'ils l'avaient peut-être.
Oui, parce que souvent ils ont démarré en compagnie, mais qu'ils n'ont plus.
Il y a cette rupture en fait qui s'est effectivement engagée dans les années 80.
C'est parfaitement les années 80, c'est clair. Exactement. Et si même je vais plus loin, c'est comme par hasard l'arrivée du mitterrandisme, hein, avec la manne d'argent, mais avec tout ce qui va avec aussi, c'est-à-dire la gauche caviar, qui pour moi a tué une bonne partie de la profession. Hein, parce que vous n'avez pas libé le monde des téléramas, vous n'existez pas au niveau des ministères. Hein, et c'est un scandale.
Personne hélas ne t'écoute. Entendez, je cherche Eurydice. Eurydice.
La troupe, c'était le moteur de notre activité. Une maison de disques vient de rééditer les disques qu'on faisait chez Harmonia Mundi. Bien sûr que les lignes mélodiques, c'est moi qui les donnais. Mais les arrangements, tout ce qui enrichit une ligne mélodique, etc., c'était nous tous. Moi, sans eux, j'étais rien. Sans Pierre Surtel au saxophone. Un très grand du saxophone, qui a appris le saxophone au Chêne Noir et la trompette. Sans lui, j'étais rien. C'était ça, les équipes. C'est pas simplement un démiurge, metteur en scène, auteur, etc., qui engage des gens et tout ça. Je veux dire, on est devenus des petits patrons. Hein.
Tu n'as pas vu Eurydice ? Il redescend vers la prison. Au prisonnier, il demande : vous n'auriez pas vu Eurydice ? Un agent de police qui guette les parcs maîtres au cas où l'un d'eux se mettrait à sourire. N'auriez pas vu Eurydice.
À la notion de troupe, effectivement, par rapport aux années 80, c'est substitué la notion, en ce qui me concerne, de famille artistique.
Alain Timard.
C'est-à-dire qu'effectivement,
dans le meilleur des cas,
de l'impossibilité d'avoir une troupe permanente et de vivre avec cette troupe permanente, qui est effectivement quelque part un idéal par rapport à l'artistique.
Moi, je trouve que ce serait normal d'avoir
l'esthétique et l'artistique.
Mais oui, on peut pas.
On peut y avoir des contrats ou des conventions qui font qu'une compagnie puisse, sur 3 années, avoir 5-6 acteurs et créer un répertoire.
Absolument.
Donc, c'est substituer cette notion de famille artistique en ce qui nous concerne. Et effectivement, quels que soient les projets, quels que soient les tournées, etc., il y a des artistes, des personnes, femmes, hommes, qu'on peut appeler. Hop, tout de suite, ils se rendent disponibles par rapport au projet en question parce qu'il y a cette notion de famille artistique. Mais c'est un pis-aller.
Et d'ailleurs, je voudrais juste relever, on était, il y a quoi, 1 an ou 2, en Roumanie ensemble.
Serge Barbouchia.
Où toi, Alain, tu avais travaillé une mise en scène avec des comédiens qui appartenait à une troupe.
Oui.
Le théâtre s'appelait Théâtre Matéi Vichniec à Suceava. Moi, j'y venais pour présenter un de mes spectacles, mais Alain avait travaillé avec ces comédiens-là. C'est vraiment deux mondes qui n'ont rien à voir. La troupe, ça veut dire que tu as un projet. La distribution, elle se fait avec les gens qui sont là. Donc, on ne va pas chercher tel comédien qui va correspondre à tel rôle.
Par rapport au Théâtre National Hongrois, dirigé par Gábor Tompa, la première fois qu'il m'avait invité dans son théâtre donc à mettre en scène un spectacle, il me dit, pour la distribution, comment on fait ? Voilà, j'ai 33 acteurs permanents. Choisir parmi 33 acteurs permanents. J'avais besoin d'une quinzaine d'acteurs maximum, mais c'était formidable de pouvoir travailler pendant une dizaine de jours avec ces 33 acteurs, plus les techniciens, etc. Ça faisait une cinquantaine de personnes. Et se dire, ben oui, parmi ces 33, tu vas pouvoir en choisir 15. Et il m'avait dit, mais si toutefois tu ne trouves pas tel ou tel acteur ou telle actrice parmi ces 33, on peut également essayer de... C'est absolument extraordinaire.
Les scènes d'Avignon, le feuilleton.
Sébastien Benedetto, Alain Timard, a prononcé le mot de famille. J'avoue que lorsque j'allais au Théâtre des Carmes, à l'époque de votre père, lorsque je poussais la porte, j'avais l'impression de rentrer dans un milieu familial, puisqu'il y avait des gens que j'avais l'habitude de voir sur le plateau et qui étaient soit derrière le comptoir ou qui bricolaient d'un côté ou de l'autre avec le patriarche qui trônait au milieu du hall ou de la salle.
Mes copains ici, où en 66, on a publié un manifeste très dur, très contestataire, la culture aux égouts, les classiques au poteau, etc. etc.
André Benedetto, fondateur du Théâtre des Carmes.
Bon, on a développé un tas de trucs comme ça, qui ont été assez mal reçus, au fond. Hein, mais c'était fait pour. Bon. Et dans la continuité, on a monté un spectacle pendant le festival. C'était le seul fait de jouer, c'était de la contestation. Voilà, une bande de voyous qui jouent pendant ce festival. C'était donc malvenu, mal vu. Il y a une volonté de contester pour dire quoi ? Ben, qu'on existe d'abord, je crois.
C'est un peu à l'image de ce que disait Gérard Gélas. Si ça jouait pas, effectivement, il y avait des travaux au théâtre, tout le monde participait, et puis on faisait le réveillon au théâtre. Enfin, c'était vraiment une vie de famille, de troupe mélangée. Après, moi, je pense que ça m'a marqué aussi parce que en tant que DJ, c'est un métier où beaucoup d'entre eux tournent tout seul. Moi, j'ai toujours tourné avec un autre DJ et un chanteur. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui marque et qui fait aussi que ces théâtres ont été des lieux d'expérimentation, de travail, d'outils. Il y avait toute une vie, toute une création qui se faisait avec une troupe.
Pour en finir avec le thème de la troupe, Gérard Ventaggioli, là, évidemment, on enregistre du son, mais vous avez fait un geste en disant que, de toute façon, le problème de la troupe, c'est un problème de pépette.
C'est un problème financier, oui. J'aurais aimé avoir une troupe. Quand j'ai commencé, c'était dans les années 70, c'était des copains, quoi. Et personne n'était acteur, vraiment. Je les choisissais en fonction de leur caractère, de leur personnalité. Et c'est comme ça qu'on montait des spectacles. Et je trouvais ça fabuleux parce que je ne me trompais pas par rapport au rôle que je leur donnais. Après, quand on a trouvé le théâtre en 1982, tout ça s'est un peu disparu. J'ai regretté cette atmosphère de famille, de troupe, vraiment. Maintenant, il n'y a plus que la Comédie Française, hein, vraiment, comme troupe. Il y a encore Mouchkine, peut-être. Enfin, il y en a encore peut-être d'autres, mais c'est rare. Hein. Nous, quand on a pris le théâtre, la troupe, c'était Daniel et moi. C'est tout. Daniel, c'était mon pilier, quoi. Et moi, j'avançais comme je pouvais. On choisissait les acteurs, mais avec difficulté. Parce que ce qui manquait, c'était le moteur. C'était l'argent. Et je pouvais rien faire du tout. J'ai monté des spectacles, pas toutes les années, parce que j'avais pas d'argent. Il fallait assurer le théâtre, il fallait assurer l'ouverture du théâtre. Les pompiers nous embêtaient beaucoup. Je me rappelle le commandant Yurio, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui.
Ah oui, oui, très bien.
Il était terrible. Il me disait, Vantagioli,
tu
n'ouvriras pas cet été. C'est pas possible, tu n'ouvriras pas. Et nous, on pleurait.
Mais il te laissait ouvrir après.
Et puis, on ouvrait. Il fermait les yeux, il enlevait sa casquette parce qu'à un moment donné, Daniel disait « Mon colonel, enlevez votre casquette devant une femme. » Et il enlevait la casquette, sinon il ne passait pas avec la casquette. Un endroit, plafond où il était bas, c'était difficile. Et je rêve, mais maintenant je pense que c'est un peu tard, quoi, d'avoir une troupe.
Un peu d'espoir dans ce monde de brut, oui, dans cette économie de brut.
Oui, c'est ça, oui.
Paradoxalement, aujourd'hui, vu la crise économique, vu que ce qui va nous arriver sur la tronche dans les années qui viennent, j'ai remarqué qu'un certain nombre de jeunes gens essaient de travailler en troupe.
Oui, c'est bien.
Ça reste extrêmement difficile, comme ça l'était à l'époque aussi. On pourrait craindre de magnifier, d'avoir une sorte de nostalgie vis-à-vis du passé, mais effectivement, on a mis également en évidence toutes les difficultés extrêmes du quotidien et de l'organisation de ce quotidien par rapport à notre projet théâtral, notre projet de vie artistique. Mais aujourd'hui, vu les difficultés économiques, je crois qu'il y a un renversement de vapeur. J'ai rencontré, moi, certaines compagnies qui essaient de fonctionner de manière collective.
Juste une chose, je voudrais te dire, Michel, en 1981,
Gérard Gélas.
Le Chêne Noir, on est 19 permanents. Actuellement, on est 8, mais c'est que de l'administratif et de la technique. La démagogie aujourd'hui nous pousse sans arrêt à dire sans les techniciens, sans l'administratif, il n'y a pas de spectacle. C'est tout à fait vrai, mais ajoutons, sans les artistes, il n'y en a pas non plus. Et les artistes, c'est les derniers roues de la charrette. L'argent ou le peu d'argent qui arrive chez nous nous permet d'avoir juste la structure administrative qui nous permet de faire les dossiers sans lesquels on n'existe plus. Les techniciens, bon, pour moi, c'est les artistes. Ils sont en nombre ultra réduit dans toutes nos maisons. Ils sont brillants, ils sont ouverts, ils sont enviés même par certains. Mais en réalité, pour moi, ils ne remplissent pas totalement leur mission. Un théâtre qui n'a pas d'acteurs, on devrait même avoir des auteurs. On devrait pouvoir les payer, les auteurs.
Je crois que l'on paie très cher notre soif de liberté et notre indépendance.
Oui, oui. Alors, nous, oui, parce qu'on est à la marge de l'institution.
Quand on a un spectacle qui fait 30 ou 40 dates, on est très heureux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une production, elle ne permet pas à quelqu'un de vivre. Donc ça veut dire concrètement que chaque comédien a besoin de chercher plusieurs productions pour pouvoir sortir la tête de l'eau, on va dire. Vous savez, quand j'ai créé Le Balcon, je ne voulais pas faire de bureau. J'avais fait une cuisine et le théâtre. Je disais que le plus important, c'est qu'on puisse manger ensemble. Et puis le bureau s'est imposé doucement. Et les permanents, maintenant, c'est la bureaucratie.
Voilà. Vous n'auriez pas vu Eurydice.
Le feuilleton des scènes d'Avignon, à suivre.